qui vont être sous ta tutelle, Seigneur, par l'intermédiaire des enseignants, des moniteurs. Merci pour ce potentiel qu'il y a dans l'Église également, Seigneur, que tu bénisses chacun, moniteur et enfant, que tu ouvres les cœurs, parce que ceci, c'est une semence que tu mets dans les cœurs qui va grandir. Est-ce qu'on peut voir devant nous ? Eh bien, c'est l'Église de demain. Et je te demande de vraiment bénir chacun, parce que tu aimes les enfants et tu aimes chacun d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci.
Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Je me suis baladé dans Colossiens depuis 10 jours. Et puis, en fouillant, en lisant plusieurs fois les épîtres aux Colossiens, je me suis baladé dans la Bible pour retrouver un peu l'histoire de Paul, qui a écrit cette lettre à la communauté de Colosse. Et puis, ensuite, je suis allé revoir un petit peu Jésus et sa parabole du semeur. Et puis après, je suis allé dans les Proverbes. Et c'est bon de lire un texte qui nous invite en fait à nous promener et avoir cette unité de la vision qu'a Dieu pour nous et de son enseignement. Alors je vais éviter de nous balader dans tous ces textes, mais c'est ça qui est fort, c'est quand on lit un texte, il y a plein de choses qui se passent et après il faut réussir à canaliser tout ça. Alors, j'avais envie d'aller voir un petit peu Saul avant d'aller voir les Colossiens. Saul, hein, qui menaçait les chrétiens, qui était un pharisien zélé, et qui avait enfin le droit de pouvoir les tuer et de les enfermer. Et il se réjouissait de pouvoir aimer son Dieu, peut-être, à sa manière, en persécutant les chrétiens, et qui se fait arrêter sur la route de Damas par le Christ, qui lui parle directement. Vous vous rendez compte, c'est quand même... Oh. Il lui parle directement. « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Et c'est fou, parce que Saul, du coup, il reconnaît tout de suite que c'est pas... Il dit « Seigneur, en fait. Hein. » Il dit tout de suite « Seigneur, qui es-tu ?» Donc, il reconnaît en cette voix que c'est Dieu qui lui parle, le Christ. Je suis Jésus, c'est moi qui tu fais souffrir. Et voilà Saul qui est complètement déboussolé, aveugle, et qui ne peut pas, du coup, qui est obligé de lâcher prise et qui doit se laisser guider. Et là, Dieu a tout prévu, le Saint-Esprit le guide à travers Ananias. Et je vous la fais court, hein. À travers Ananias et à travers en fait la communauté chrétienne qui doit s'occuper de Paul. Et voilà une communauté qui se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» et qui en même temps fait confiance, prie, et puis réalise que oui, Saul est transformé. Et il a besoin dans cette période de la communauté. Les chefs, les prêtres veulent arrêter Paul, évidemment, mais qu'est-ce qui lui a pris ? Et il se met à témoigner. Paul, du coup, est zélé par le témoignage. Par contre, lui, il ne sait plus quoi faire de sa vie à ce moment-là. Et c'est la communauté qui va prendre soin de lui. Elle le guide. Elle lui dit, viens avec nous. Elle voit qu'il va être du coup arrêté et tué ou persécuté, hein, par les autorités. Donc du coup, elle doit le guider, elle doit l'accompagner, le protéger. Et Paul se laisse faire. Il le descend par un panier de la muraille, parce qu'il y a des gardiens tout autour des portes. Et puis Paul est caché dans son panier, il le descend et il l'emmène ailleurs. Paul, lui, il témoigne et il lâche prise sur le reste.
Ah oui, c'est pas le bon bouton que je fais, c'est normal. Et il y a un moment donné où, du coup, ils lui disent « Ah bah tiens, tu vas venir avec nous, tu vas ici. » Et puis ils sentent qu'ils ont besoin de lui pour un autre endroit. Donc bah, tu viens avec nous, nous allons ici, et puis tu vas en Antioche, et puis maintenant tu vas faire ceci. Et Paul, il se laisse faire. Il se laisse faire. Et là où il est, eh bien il témoigne. Il y a un moment donné, la communauté doit lâcher prise. Ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, et voilà que le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas ou Silas, je ne sais plus, mais mettez-les-moi à part. Je les envoie. Et voilà que la communauté doit lâcher prise. Et Paul doit partir. Il continue à jeûner et à prier. Ainsi, il pose les mains sur la tête de Barnabas et de Saul, à l'époque il s'appelait Saul, et il les laisse partir. Parce que le Saint-Esprit a dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Et là, moi je me dis, mais c'est trop le bonheur en fait. Dieu qui te parle directement, Dieu qui t'envoie directement. Voici un petit peu les points, excusez-moi, c'est là pour vous, les points qui résument la situation. Dieu se révèle, ça déboussole, la communauté chrétienne protège, elle prie, elle accompagne, elle oriente. Paul se laisse guider par la communauté, et il témoigne de Christ là où il se trouve. Le Saint-Esprit transmet la mission. La communauté prie et laisse Paul et Barnabas partir. Et on voit le résultat. Il est feu bouillant. Ils sont feu bouillants. Ils se posent plus de questions sur leurs conditions. Sur leur avenir. C'est une autoroute. Alors c'est dangereux, ce genre de personnage dans la Bible. C'est dangereux parce qu'en fait, on ne peut pas trop s'identifier à eux, en fait. Parce que quand même, ce sont des grands personnages de la Bible. Hein, et on ne peut pas se dire, ah ouais, moi aussi, c'est transcendant. Allez, je veux foncer, et je veux y aller, etc. Et guide-moi et j'irai n'importe où, etc. Enfin, on doit apprendre à ne pas trop s'identifier aux héros de la Bible qui ont quand même des missions très spécifiques et pourtant de s'en inspirer. Et voilà que ce héros de la Bible, eh bien, il nous invite à dire, ah ben tiens, et moi alors, est-ce que Dieu me confie une mission ? Vas-y, fonce. Et si on reprend un petit peu ce que Paul a vécu, il a vécu cette période où, eh bien, là où il était, il témoignait. Et il s'est laissé guider par la communauté. Voyez. Alors le vas-y, fonce, c'est pas forcément « Ok, je suis prêt à tout lâcher et je m'en vais ». Le vas-y, fonce, c'est « Ok, je vais rester bien relié avec la communauté ». Pour qu'ensemble, on puisse discerner. Le vas-y, fonce, c'est là où je suis. Eh bien, je témoigne. Je fais des actions de grâce. Je vis ma foi. Et quand on travaille dans ce terreau fertile, eh bien, mon Dieu, il nous dit, ben, ouais, c'est là où je veux que tu sois. Ou Dieu nous dit, tiens, maintenant, passe une nouvelle étape. Ça, on ne peut pas savoir. Mais c'est bon de vivre ces étapes-là avec la communauté. Et la communauté qui a une responsabilité doit apprendre aussi à lâcher prise. À un moment donné, quand on sent quelqu'un qui dit « Mais moi, je j'ai quelque chose à faire, libérez-moi », entre guillemets, la communauté doit aussi discerner, entendre et en libérer des personnes et prier pour eux et les accompagner dans ce qu'ils ont à faire. Donc c'est vraiment dans les deux sens en fait. Ce n'est pas que la personne qui est tributaire de quelque chose, c'est la communauté qui doit apprendre à écouter pour envoyer ou laisser partir. Alors voilà Paul qui part avec Barnabas. Et les voilà avoir fait de longs voyages. Et nous avons cette fameuse lettre, la lettre aux Colossiens, où on est bien longtemps après, hein, où il y a énormément de conversions dans tout le monde antique. Et à Colosse, a priori, ce n'est pas du tout Paul qui a témoigné, hein, ce sont d'autres personnes. Hein, et du coup, Paul, il leur envoie une lettre pour les encourager, et aussi peut-être parce qu'il y a des faux docteurs ou des traditions qui sont en train de revenir, des philosophies qui se rajoutent, etc. Et qu'à un moment donné, il faut voilà, vraiment encourager la communauté à revenir à l'essentiel. Et cette fois-ci, vous voyez, on ne s'identifie plus à Paul, on s'identifie à la communauté, une communauté locale, comme nous, à Chambéry. Et on reçoit ce texte. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats, des fruits, et se développe aussi dans le monde entier. Nous remercions toujours Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez en Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle, donne des fruits, des résultats, se développe aussi dans le monde entier. Quelques mots clés. J'ai été pris par la notion d'espérance. Et cette phrase qui dit « En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. » Et qui dit encore « Elle vous a fait connaître cette espérance. » Ce que Paul dit à ce moment-là, alors qu'il est lui en prison, donc il a le temps d'écrire, il a le temps d'être en relation avec Dieu, il n'a plus rien, il est enfermé. Il nous ramène à être en lien avec le ciel. Et il essaye de préparer le terrain pour ne pas être constamment en train de voir les choses concrètes sur la terre et d'espérer dans des choses humaines, des choses terrestres, mais vraiment d'être attaché à une espérance qui est bien plus élevée, celle du ciel. Et juste après, il continue en disant « C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à Dieu de vous donner. » De vous donner quoi ? Voilà Paul qui les encourage et maintenant qui leur dit « Voilà ce que je demande à Dieu pour vous. » Donc il ne leur parle pas tout à fait directement. Il dit c'est ça que je demande à Dieu pour vous. Hein. La force de la prière. De vous donner quoi ? la connaissance de sa volonté, la sagesse, l'intelligence, mais lesquelles ? La sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle. Marcher dans le Seigneur pour lui plaire. Voilà comment marcher dans le Seigneur pour lui plaire. Marcher dans la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle. Ainsi, vous porterez des fruits et des bonnes œuvres. Notez que ce n'est pas un commandement de porter des fruits et des bonnes œuvres, même s'il y a des textes qui parlent parfois de ça. C'est la conséquence. C'est la conséquence d'être dans la sagesse spirituelle, d'être dans l'intelligence spirituelle, de marcher dans le Seigneur, d'être attaché à lui, qui fait que nous portons des fruits, évidemment, qui fait que nos œuvres sont bonnes. Et on a parfois tendance à vouloir faire des œuvres, à vouloir agir, à dire « Ah, j'ai bien donné, est-ce que j'ai bien donné pour toi ?» hein, et attendre que Dieu nous agrée. Hein, et à dire « Ah oui, là j'ai fait du bon boulot pour toi. » Attention, parce qu'après on devient activiste, on fait trop de choses, on s'épuise, on est fatigué d'avoir trop fait. Ou de se dire « Mais... et moi, alors, je me ressource quand ?» Ce sont des conséquences, les bonnes œuvres, d'une relation avec Dieu. Et vous gagnerez en connaissance de Dieu. C'est un peu comme un cycle, c'est-à-dire que la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle, la relation avec Dieu, marcher, donc oui, agir pour lui, eh bien, ça se combine et ça se nourrit de manière à ce que la connaissance de Dieu se gagne, et parce qu'on est en lui, et parce que comme on agit avec lui, eh bien, les deux fonctionnent, en fait. Et on connaît de plus en plus Dieu, pas d'une manière intellectuelle, mais en agissant pour lui. Vous êtes fort, il donne sa puissance. Et vous avez la joie. La joie dans la persévérance et la joie dans la patience. C'est drôle, ça. Ouais, c'est la joie. C'est pas la joie d'avoir fini ou la joie de voir le bon travail qu'on a fait ou la joie d'être dans le repos, non. Vous aurez la joie dans la patience, la joie dans l'espérance. Encore une fois, vous voyez, le Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous amène à ce que notre joie n'est pas de regarder nos résultats, en fait, hein, de notre travail ou la joie du travailleur, c'est la joie dans la persévérance et dans la patience. C'est-à-dire que ce n'est pas fini, en fait. Ce n'est pas fini. En fait, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est vrai, il faut le dire. Ça ne s'arrête jamais. Parce que nous vivons dans l'espérance. C'est l'espérance qui nous nourrit. Nous pouvons aspirer à des choses pour demain, pour après-demain, des choses qui sont terrestres ou qui sont de la vie du quotidien, qui sont peut-être pouvoir ne pas être seul et trouver quelqu'un pour sortir de la solitude, pour sortir du travail quotidien qui est épuisant aussi. Mais quand est-ce que je vais sortir de ce train qui ne s'arrête pas d'avancer, de vouloir régler des problèmes relationnels, d'être toujours en difficulté financière, d'être fatigué, d'être sous la tentation. Quand est-ce que ça s'arrête? Et les textes bibliques, Dieu, le Christ, nous disent, votre joie, elle peut être dans ces moments-là. Et pour ça, il faut vivre dans l'espérance. Que j'appartiens à Dieu, l'espérance des cieux. je m'accroche à quelque chose de céleste, un héritage qui est sûr, et je prends patience et je suis persévérant. Il me semble que cette attitude, que le fait d'avoir ça en soi, permet aussi de débloquer des situations bloquées dans notre vie, parce qu'on a une attitude différente. On est dans la bataille de la vie. Seigneur, mais en fait, ce n'est pas ça le plus important. J'ai le plus important et c'est ça qui est bon. Et j'ai cette joie de t'appartenir. J'ouvre les yeux dans la bataille et là, je vois autrement. Et moi-même, je commence à dénouer des nœuds. Est-ce que je croyais finalement, vous voyez, qu'il y a des murs en fait qui sont là, ils peuvent sauter aussi sur terre. Aussi sur terre. Des blocages que j'ai peuvent sauter sur terre. Mais pour ça, il faut d'abord se nourrir de cette espérance et se dire, mais oui, je suis enfant de Dieu. Mais oui, c'est au ciel qu'on aura la plénitude. Et aujourd'hui, je peux commencer déjà à m'en réjouir. Et je suis reconnaissant. Vous l'avez vu, lui ? Regardez, hop, hop. C'est bien ce truc. Et je suis reconnaissant. Oui, c'est un héritage que nous avons. Il est sûr. Nous sommes déjà dans le royaume du Fils. Ce petit verset, à la fin, il plombe un peu les trucs. « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Dieu, ce que Dieu a fait pour nous est sûr. Mais c'est moi qui suis fragile. C'est vrai. C'est moi qui peux me détourner. C'est moi qui peux partir de côté. Paul prépare là le terrain parce qu'il sait qu'à Colosse, eh bien, il y a des philosophes qui sont en train de débattre sur des courants de pensée qui s'éloignent de Christ. Parce qu'il y a des juifs qui veulent revenir à la tradition, qui voudraient qu'il puisse y avoir la circoncision, qu'ils puissent revenir. Donc il y a tous ces débats au sein du peuple pour rajouter des choses qui sont d'ailleurs légitimes en fait, hein. Rajouter des lois qui existaient sous l'Ancienne Alliance. Et donc, c'est du débat, c'est de l'échange, etc. Et puis, les philosophies, en soi, on a tous fait un petit peu de philo, on a lu des bouquins, ou on a lu des livres de sagesse humaine, ou des courants politiques, des courants de pensée, et c'est bon quand on les lit. C'est on dit, ah ouais, c'est bon, moi, je discute avec des bouddhistes, je discute avec... C'est très surprenant, je vous rassure, hein. Je discute avec des francs-maçons, et donc je discute avec eux, et puis je comprends leurs recherches, je comprends ce qu'ils cherchent, vous voyez. Et puis parfois, et puis ils se nourrissent de ça. Mais ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec eux. Par contre, sur une partie de la saveur qu'ils cherchent, en fait... par exemple, la méditation chez les bouddhistes, ouais, ils cherchent à mon nez ce moment de repos, ce moment de calme, etc. Eh bien, en fait, ce que dit Paul, c'est qu'en Christ, il y a tout. Et là où il veut vraiment le faire comprendre, c'est que, alors que le Christ vient de mourir sur la croix et que c'est tout frais, il était là sur terre, Paul il rappelle que le Christ était là depuis le début de la création du monde. Il n'a pas débarqué il y a 2000 ans. Il était là avec le Père. Le Père a créé le Fils. Et il a tout fait avec lui dès le début du monde. Il a tout établi avec lui, les autorités, les dominations, tout. De sorte que le Christ a vu toutes les philosophies arriver, tous les courants de pensée, toutes les religions débarquer. Et qui se fraye un chemin en quittant Dieu, les pensées de Dieu, en quittant le fondement par le Christ. En Christ, nous avons tout. En Christ, c'est plus que de la méditation. C'est de la relation dans la prière. En Christ, ce n'est pas une philosophie, c'est une vie incarnée. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Et par l'esprit, par la foi, je demande à Dieu de faire le tri, de faire le tri dans tout ce que j'ai appris. Parce que il y a des choses qui sont bonnes dans ce que les gens souhaitent nous transmettre, mais avec le Christ, c'est lui qui fait le tri. Dernier petit point, c'est que ce n'est pas que des philosophies, des courants de pensée qui, aujourd'hui, nous éloignent de Dieu, nous éloignent de la foi et de l'espérance. C'est l'énormité de toutes les activités qui sont autour de nous. C'est ce merveilleux monde avec tous ses loisirs, avec toutes ces belles choses qui sont devenues accessibles aujourd'hui. Ça nous fait du bien, ça nous détend, ça nous divertit. À partir du moment où ce n'est pas ça qui nous nourrit. Et là aussi, Dieu n'est pas légaliste. Il y a un chapitre dans les Colossiens qui rappelle qu'on est libéré, en fait. Libéré de « fais pas ci, fais ça, mange pas ci, mange pas ça », etc. Donc on est libéré du dogme et des choses légalistes, mais on est libéré parce que nous vivons par la foi et par l'espérance. Mais dans ta vie de tous les jours, si tu ne cultives pas ça, eh bien, tu te fais bouffer. Excuse-moi, je te le dis. Tu te fais bouffer dans ton quotidien. Tu crois que tu gères? Demande à Dieu si tu gères. Prends du temps avec lui. J'ai aucune capacité à vous dire ce qui vous entraîne à distance du Christ. Parce que c'est par la foi et par l'espérance que vous aurez la réponse. Mais on doit se dire les choses. Regarde ta journée, regarde ta semaine. Et ça, tu sais, si Dieu, il est là, dans ta journée, dans ta semaine, s'il pilote, si tu lui fais confiance, ou si tu reviens à lui de temps en temps, si tu es préoccupé par des journées de fou et que tu n'arrives pas à trouver ce temps de ressourcement pour que c'est lui qui pilote. Tu le sais, ça. Prends ton temps. Moi-même, je combats. J'ai demandé à Dieu de faire sa mission. Il m'a emmené dans sa mission. Ça fait 14 ans maintenant que je suis parti dans sa mission. Et je vous assure que je dois toujours revenir à lui, très régulièrement. Parce que sinon, j'en fais trop. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans sa mission, tu te dis « Ouais, je fonce, je suis dans la mission de Dieu. » Tu vois, et tu perds ton discernement parce que tu ne marches plus par la foi, parce que Dieu il t'a dit « Vas-y, ok, je fonce, j'y vais. » Mais au bout d'un moment, je porte pas un peu trop, là. Donc c'est tout aussi dangereux de se considérer dans la mission de Dieu, parce que du coup, on se dit « Ah bon, on a les... » Enfin, je ne sais pas comment dire ça, on a tous les feux verts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, non, parce que là aussi, on se fourvoie. Et moi, je me dis « Ok, Jean-Marc, tu dois lâcher quoi maintenant ?» Tu dois lâcher quoi ? Reste en relation avec ton Dieu, par la foi, par l'espérance. Sois toujours relié avec ta communauté de foi pour discerner ensemble, pour qu'elle te dise « Allez, viens !» et puis qu'après, elle t'envoie à nouveau. Nous sommes tous et toutes en travail sur cette relation. Et nous avons tous besoin de cette paix intérieure, de cette joie et de cette espérance. Nous avons reçu le Christ Jésus comme Seigneur. C'est Colossiens chapitre 2, verset 6. Eh bien, vivons unis à lui. Ok ? Nous avons reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivons unis à lui. Plongeons nos racines en lui. Construisons notre vie sur lui. Restons solidement dans la foi qu'on nous a apprise. Remercions Dieu avec beaucoup d'ardeur. Personne ne doit nous tendre au piège, nous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. C'est nous. Nous participons totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Par le baptême, nous avons été mis dans la tombe avec le Christ. Avec lui, nous avons été réveillés de la mort. Seigneur, je te demande de nous parler, je te demande de nous sonder. Seigneur, que l'équipe de responsables de notre Église, Seigneur, puisse être affermie pour continuer à nous encourager, continuer à nous interpeller, ensemble de vivre par la foi, Seigneur. De vivre avec cette espérance en nous. Seigneur, tu vois notre quotidien à tous, à toutes. Tu vois aussi notre besoin des fois de nous poser, de se sentir fatigué. Et ô combien tu es celui, Seigneur, qui nous apporte le repos, la paix, la joie. Ô combien, Seigneur, tu es là à nos côtés pour vivre ça avec nous. Seigneur, aide-nous à vivre ça en communauté, aide-nous à vivre ça chacun, Seigneur, dans sa chambre, à vivre ça chaque jour dans nos rencontres avec les autres, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons mettre les mots sur notre quotidien, sur nos difficultés, ne pas faire l'autruche. te confier, Seigneur, les points que tu dois accompagner dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Quelques-uns ont envie de prier, vous pouvez, pendant